Bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture consacrée au bouleversement suscité par le numérique et les nouvelles technologies. La promesse reste inchangée en 2023 et j'en profite pour vous souhaiter à tous une belle année en espérant qu'elle nous offre davantage d'utopie que de dystopie. Mais en attendant, nous allons démystifier la figure de l'entrepreneur de la Silicon Valley. Vous savez, cet homme messianique qui se serait fait tout seul depuis son garage et qui parviendrait uniquement par son génie à changer le monde. Le mythe et ce mythe de l'entrepreneur, le chercheur Anthony Galluzzo l'a questionné, décortiqué et déconstruit dans son tout dernier ouvrage à paraître la semaine prochaine. L'auteur propose une contre-histoire d'Apple en analysant minutieusement le parcours de Steve Jobs, encore récompensé en juillet et à titre posthume par Joe Biden de la médaille présidentielle de la liberté, ce qui est quand même la plus haute distinction civile américaine. Alors comment Steve Jobs a-t-il façonné son image dans la presse et sur la place publique? Comment a-t-il invisibilisé le collectif ou le contexte socio-économique qui ont favorisé son succès? En quoi ce mythe de l'entrepreneur revêt-il une dimension éminemment politique? Quelle est l'idéologie qui sous-tend cet imaginaire? Et comment est-il possible d'en sortir? De nombreuses questions et un auteur qui, pour reprendre un célèbre slogan, sera là pour penser différemment. Anthony Galluzzo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences de gestion et maître de conférences à l'université de Saint-Étienne. Vous sortez jeudi prochain votre deuxième essai, Le mythe de l'entrepreneur, défaire l'imaginaire de la Silicon Valley aux éditions La Découverte dans la très belle collection Zone. Et votre premier livre sur la fabrique du consommateur sortira à cette occasion en poche. Nous allons donc ensemble revisiter la success story de la pomme et plus globalement nous interroger sur les fondements politiques, économiques et philosophiques de l'entrepreneur de la vallée, à la vision forcément prophétique, une volonté indomptable et évidemment une fêlure originelle. Au programme également les nouvelles du meilleur des mondes et la chronique de Marcus Dupont-Bénard qui reviendra sur le film Netflix de Noël, Glass Onion, qui singe un certain Elon Musk. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter à l'antenne ou en podcast sur l'application Radio France. Et j'en profite pour vous annoncer que dès la semaine prochaine, nous serons également diffusés sur la chaîne Twitch de France Culture. Nous pourrons donc nous parler avant l'émission et prolonger la discussion après. Le meilleur des mondes sera donc en version augmentée en 2023. Mais pour l'heure, explorons le mythe de l'entrepreneur pour mieux s'en défaire.
Hey Siri, set my morning scene.
Today, I want to tell you three stories from my life. That's it, no big deal. How can you get fired from a company you started? Well, I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. It freed me to enter one of the most creative periods of my life.
Derrière cette image de philanthrope, il y a celle d'un redoutable homme d'affaires qui depuis 20 ans règne sans partage grâce à sa puissante multinationale, Microsoft.
Les self-made men, les self-made women, ça n'existe pas. Nous sommes tous le produit d'un certain nombre de circonstances qui font qu'on réussit ou pas.
L'arrivée du smartphone a bouleversé la donne. Car à lui seul, cet appareil permet l'alphabétisation, l'émancipation et l'autonomie de personnes qui n'ont ni l'électricité, ni l'eau courante.
Vous devez faire confiance en quelque chose. Votre intuition, le destin, la vie, le karma, peu importe. Car croire au fait que les points se connecteront un jour ou l'autre vous donnera la confiance dont vous avez besoin pour suivre votre cœur.
Et voilà, du Steve Jobs dans le texte avec ce discours prononcé aux étudiants de Stanford, un discours qui est resté assez mythique pour reprendre justement l'un des termes de votre livre, Anthony Galluzzo. On va d'ailleurs commencer par la scène originelle que vous analysez longuement dans votre ouvrage, la scène du garage, là où Steve Jobs aurait conçu l'ordinateur personnel. Une maison d'ailleurs qui a ce garage qui est classé historique dans la vallée. Quelle est d'ailleurs la fonction symbolique de ce récit, de cette fameuse scène du garage?
Alors, la scène du garage, effectivement, est répétée à longueur de biographies, de biopics, de documentaires, d'articles de presse. Ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de constater concrètement à travers une étude thématique, puisque j'ai pris à peu près, enfin, j'ai construit un corpus, j'ai pris tout ce que j'ai pu trouver de ressources fictionnelles et documentaires sur Steve Jobs. pour voir justement quels étaient les éléments narratifs qui revenaient très souvent et ceux qui au contraire étaient beaucoup plus souvent passés sous silence ou oubliés dans toutes ces compilations. Et effectivement, le garage, c'est la scène fondatrice. Alors qu'est-ce que ça signifie le garage ? Ça signifie le fait que l'entrepreneur va se faire de lui-même, il part d'un grand désert en fait, il s'élève à la force de son propre talent, de ses idées, de son caractère visionnaire. Et en fait, ça fait fi de tout l'écosystème dans lequel il s'inscrit. Et en fait, ce qu'il faut regarder au-delà du garage, c'est là où est situé le garage. Et là où était situé le garage de Steve Jobs et Steve Wozniak, c'était dans un des plus grands centres d'accumulation capitaliste au monde, près de l'université de Stanford et de son parc industriel, en plein dans les quartiers résidentiels où pullulaient les ingénieurs Hewlett-Packard, qui était à la pointe en fait de l'innovation des composantes électroniques et informatiques de l'époque. Voilà, donc c'est
oui, c'est intéressant parce que quand on parle de la scène du garage, donc pour la rappeler, même si vous l'avez dit, vous l'avez vu et lu de nombreuses fois, et puis c'est une histoire qu'on entend beaucoup. Ce jeune qui est tout seul chez lui dans son garage le soir en train de travailler, puis d'un coup il a une sorte de lueur, d'éclair de génie. Il arrive à trouver cette innovation qui va changer le monde, et de ce garage il passe à la multinationale. C'est donc l'histoire racontée par Steve Jobs et par ceux qui ont travaillé sur lui. Et puis c'est quelque chose qui se reproduit, hein. Effectivement, cette scène du garage, on peut aussi l'avoir dans différents récits d'entrepreneurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, ça occulte tout le reste. Donc là, on comprend que le garage, il faut encore savoir où est-ce qu'il est situé. Donc quand il est situé justement à deux pas d'un palace d'information de Stanford, effectivement, ça limite un peu la portée du garage. Et puis vous avez cité justement le rôle de l'ingénieur Steve Wozniak, hein, qui a été peut-être plus prépondérant que l'on ne le croit dans la naissance d'Apple. En tout cas, dans votre ouvrage, vous imaginez différentes manières de raconter l'histoire d'Apple, et il y en a une où vous mettez un peu plus en valeur justement le rôle de l'ingénieur Steve Wozniak et le rôle aussi de HP, vous en avez parlé tout à l'heure, comme quoi Apple, vous dites, sera peut-être qu'une excroissance de Hewlett-Packard.
Oui, effectivement, pour cette scène fondatrice, en fait, elle révèle une axiologie, elle révèle un imaginaire politique, et c'est une construction qui est toujours très arbitraire, parce qu'au final, si on veut raconter les débuts d'une entreprise, on peut s'attarder sur tout un ensemble de gestes et de lieux. Il y en a rarement qu'un seul, en fait. Et là, dans le premier chapitre de mon ouvrage, j'essaie effectivement de générer des récits alternatifs qui sont tout aussi probants, hein, dans la sélection de ce qui s'est réellement passé dans les années 70 à cette époque-là. On peut effectivement placer la scène fondatrice de la création d'Apple avec comme personnage central non pas Steve Jobs mais Steve Wozniak, travaillant le soir seul dans les locaux de Hewlett-Packard après la fermeture pour créer les prototypes de ce qui va devenir l'Apple 1 puis ensuite l'Apple 2.
Donc bénéficiant des ressources de Hewlett-Packard mais ne travaillant pas pour cette entreprise mais travaillant pour une autre, ce qui peut se faire effectivement habituellement lorsqu'on est un ingénieur, de prendre sur son temps personnel mais avec les ressources de l'entreprise pour façonner l'Apple de demain.
C'est ça, exactement. Et on peut aussi ensuite raisonner en termes d'acteurs, hein, puisque là on se focalise sur Steve Jobs. Et en fait, plus on s'éloigne dans le temps, enfin plus on s'approche de notre époque contemporaine, plus on se rappelle de Steve Jobs et plus on le panthéonise. En fait, il était déjà au cœur de la communication corporate d'Apple dès les débuts, mais Steve Wozniak était déjà beaucoup plus présent. Et il y avait une troisième personne qui est quasiment oubliée aujourd'hui, qui s'appelle Mike Markula, qui est un ancien employé de Fairchild Semiconductors et d'Intel, et qui est vraiment une personne capitale dans la création de cette entreprise, puisqu'il a transformé cette petite opération de jeunes amateurs sympathiques en une véritable start-up, puisqu'il a contribué, notamment sur ses deniers personnels, puisque c'était un millionnaire qui avait une certaine expérience, à financer et à attirer aussi tout un ensemble de capitaux et de financiers, en fait.
Oui, c'est pour ça que vous parlez de personnage capital. Justement, c'est un financier. Et vous dites que sans lui, finalement, c'est lui qui a donné l'ampleur, en fait, à ce qu'allait devenir Apple. Et c'est vrai qu'il est complètement oublié dans les récits, puisque même dans votre ouvrage, vous allez essayer de trouver le nombre d'occurrences de son nom, et on voit qu'il arrive très, 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 très loin derrière. Est-ce que tout ça, c'est quelque chose de conscient? Est-ce que, par exemple, Steve Jobs, dans la manière dont il se raconte, dans la manière dont on va le raconter, est-ce qu'il y a une volonté consciente d'invisibiliser? Ou alors, est-ce que vous pensez que ça devient qu'il croit lui-même à ce propre mythe? Comment ça fonctionne? Parce que est-ce que lui, il sait très bien le rôle qu'a pu jouer un ingénieur, il sait très bien le rôle qu'a pu jouer un financier. Est-ce que sciemment, il ne les citait pas, il ne racontait pas cette histoire-là parce que ça ne rentrait pas dans son storytelling?
Alors, Il fait des références régulièrement hein, tout au long de sa carrière à l'écosystème. Il va parler de la façon dont Sony a été important, par exemple l'entreprise Sony dans les premières années du parcours d'Apple. Mais en fait, il le fait face à des audiences choisies, des audiences notamment d'étudiants, des grandes universités américaines, des audiences de techniciens, d'érudits, etc. Et je ne pense pas que ça soit une façon consciente d'occulter ou de voler la vedette. En fait, c'est les règles du jeu qui étaient déjà bien présentes avant Steve Jobs et qui le sont encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est sur un jeu médiatique, on n'est pas sur un entrepreneur créateur d'entreprise, on est sur une célébrité entrepreneuriale, c'est-à-dire un produit médiatique. Et en fait, c'est une très bonne façon de marketer une entreprise que de l'arnacher comme ça à un récit singulier, héroïque, d'un individu. Alors ça s'est fait avec Steve Jobs et ça s'est fait de concertation aussi avec les consultants en relations publiques d'Apple dès le début. C'est-à-dire dès le début, ça a été marketé Apple comme une marque qui a été créée par deux gamins dans un garage et c'est comme ça qu'ils ont fait la tournée des magazines de la côte est américaine pour faire parler de la marque. Et c'est ce qui a donné un avantage concurrentiel considérable à l'entreprise du point de vue marketing puisqu'on avait déjà beaucoup, enfin on a déjà quelques grandes entreprises de la micro-informatique qui lançaient des ordinateurs personnels comme Commodore, mais c'était des entreprises froides et désincarnées, sans incarnation charnelle. Et là, on a au contraire un récit héroïque qui reprend beaucoup aux grandes structures, des grandes narrations littéraires, mythologiques, avec une espèce d'épopée héroïque. Et c'est quelque chose qui est certes consciemment mis en place, mais d'un point de vue, d'une façon qui est peut-être plus collective qu'on l'imagine.
Et alors justement, quand vous parlez de cette starification de l'entrepreneur, à quand elle remonte ses origines? Parce que vous, dans votre ouvrage, il y a aussi de nombreuses perspectives historiques pour éclairer justement le mythe de l'entrepreneur.
Alors, il faut bien comprendre que c'est un phénomène médiatique, vraiment purement médiatique. Pour raconter l'histoire d'une entreprise, il faut être capable de le faire techniquement. Et en fait, si on se penche sur les premières célébrités entrepreneuriales, j'entends par célébrité entrepreneuriale celles qui dépassent, dont la notoriété dépasse de loin les frontières régionales et nationales de son activité de base, eh bien, il faut remonter fin 19e siècle avec la première génération des célébrités entrepreneuriales américaines comme Rockefeller Senior par exemple ou Carnegie, Andrew Carnegie. Et en fait, pourquoi ils émergent à ce moment-là? Parce qu'on a une presse de masse qui émerge à ce moment-là et qui leur donne l'opportunité de faire du storytelling, c'est-à-dire de raconter leur histoire, notamment dans un contexte politique où ils sont assez chahutés, puisqu'on est dans un contexte aussi d'émergence d'une nouvelle forme institutionnelle qui est la grande entreprise. C'est dans une entreprise qui vient bouleverser le paysage politique américain. Il y a une concentration terrible des capitaux et du pouvoir. Et il faut légitimer cette concentration du pouvoir et des capitaux économiques, symboliques, dans les mains de quelques-uns, de quelques personnes qui ont fait fortune. Et c'est pour ça que assez sciemment, certaines célébrités entrepreneuriales vont cultiver leur notoriété, vont cultiver un rapport assez clientéliste à tout un ensemble de journalistes pour se raconter.
Et comme vous dites, avec un outil de légitimation, en fait. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est la valeur du mérite, tout simplement. C'est-à-dire que c'est un peu chacun a sa chance. Et si j'ai réussi, je le dois qu'à la force de mes bras et la sueur de mon front.
C'est ça. Effectivement, on fait l'histoire, la socio-histoire de la figure de la célébrité entrepreneuriale américaine, on se rend compte qu'il y a assez peu de choses qui ont évolué depuis le début. Alors, il y a quand même eu certains changements, mais on a des fondamentaux qui restent inchangés, avec notamment cette idée, effectivement, de légitimer la position acquise par une supériorité d'être, une supériorité innée, en fait. D'où la mystique du génie. Il faut expliquer que cette personne, si elle est arrivée là où elle est arrivée, c'est parce qu'en fait, elle a une supériorité d'esprit. C'est une puissance créatrice, quasiment démiurgique, qui a un pouvoir visionnaire. Elle est capable de voir, de pressentir les mouvements du marché et d'imaginer de nouveaux objets, de nouveaux modèles d'affaires, de nouvelles industries, etc. Et c'est en cela que c'est un individu qui est supérieur. Et en tant qu'individu supérieur, il est légitime à nous guider, voire également à nous gouverner, puisque, comme vous le savez, ces dernières décennies, on a vu plusieurs entrepreneurs fortunés américains se prévaloir de leur réussite économique pour briguer la plus grande fonction américaine.
Et la plus haute fonction américaine, et on voit effectivement la porosité totale qu'il y a entre le pouvoir politique et le pouvoir industriel, ne serait-ce qu'un Donald Trump qui arrive en tant qu'entrepreneur à succès et qui entend bien diriger le pays comme on dirige une entreprise. Donc on voit bien justement que c'est les vertus du manager qui sont ici plébiscitées pour pouvoir essayer d'obtenir le pouvoir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sent bien, quand vous expliquez justement tout ce parcours de légitimation de l'élu, à quel point il rayonne encore aujourd'hui. C'est-à-dire que cette idée un peu messianique d'être celui qui voit, d'être le guide, d'être le prophète. Steve Jobs en a été une des merveilleuses incarnations. Mais aujourd'hui, on peut un peu le percevoir avec Elon Musk, même si c'est un prophète un peu plus chahuté que Steve Jobs l'a été en son temps. On peut le voir avec Jeff Bezos. C'est-à-dire que ceux qui sont là pour voir. Et il y a une phrase qui est très intéressante dans votre ouvrage où vous dites que le génie, entre guillemets, il ne voit pas. Pour vous, il est juste bien placé pour voir. Mmh. Et là, on voit bien que c'est tout l'écosystème, tous les facteurs que vous analysez en disant, bah, finalement, ce n'est pas juste un génie, c'est juste quelqu'un qui est bien placé au bon endroit, au bon moment et qui a les bonnes ressources pour parvenir à changer le monde.
Mmh. Effectivement, si on fait l'analyse, comme je l'ai fait, des biographies, de tous les récits qui ont été recompilé, reconstitué a posteriori après la mort de Steve Jobs, dont il y a tout un ensemble de biographies qui sont beaucoup vendues à travers le monde, qui sont beaucoup traduites, on se rend compte qu'effectivement il y a un thème qui revient assez souvent, c'est le fait qu'il est censé avoir été visionnaire, c'est-à-dire il a vu ce que personne n'était en capacité de voir. Donc une de ses
premières... Ordinateur personnel en l'occurrence.
Voilà, première vision, l'ordinateur personnel. Effectivement, ce qui est, en fait, quand on se penche sur l'histoire de l'informatique, effectivement, tout à fait faux, puisque on avait, au moment où Steve Jobs, en fait, fin des années 70, se lance dans l'aventure, dans une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre, qui est l'ouverture du marché des ordinateurs personnels, quelques années avant, au début des années 70, alors qu'il n'était encore que lycéen, dans les laboratoires Xerox, vous aviez déjà...
Xerox, rappelez-nous ce que c'était.
Alors, Xerox, c'est une entreprise qu'on connaît encore aujourd'hui, hein, que vous voyez parfois, pour que certains de vos éditeurs ont peut-être vu au travail, une entreprise qui produit des photocopieurs. Et anticipant la révolution informatique, ils ont lancé un laboratoire de recherche dans lequel a été inventé le premier ordinateur moderne, c'est-à-dire l'ordinateur à interface graphique. En fait, cet ordinateur, Xerox, était beaucoup trop cher, les composants étaient beaucoup trop chers pour imaginer, puis Xerox n'était pas équipé et compétent pour lancer un produit de cet acabit.
Et le commercialiser de manière massive.
Voilà, exactement. Et en fait, l'entreprise qui va y arriver, notamment en allant chercher les ingénieurs, en débauchant les ingénieurs de Xerox, c'est dix ans plus tard, Apple, avec le Macintosh. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, bien avant que Steve Jobs rentre sur le marché, alors qu'il était encore qu'un adolescent, c'est non seulement des gens avaient déjà imaginé la chose, mais ça avait déjà été fait. On peut remonter plus haut avec dans les années 60, le laboratoire de recherche de Stanford qui avait déjà inventé la souris, qui avait déjà inventé l'interface graphique, qui avait déjà inventé tout un ensemble de choses. Et si on s'intéresse aux premières visions, on a déjà des écrits d'ingénieurs des années 40 qui décrivent assez précisément ce qu'allait être l'ordinateur personnel.
On est d'accord, mais... quand on entend les entrepreneurs, on nous dit il suffit pas d'avoir juste la bonne idée, il faut avoir la bonne idée au bon moment. Mmh. Donc on peut quand même lui reconnaître peut-être ce mérite d'avoir réussi à transformer peut-être ce qu'il n'a pas créé, ce qu'il a puisé chez les uns, chez les autres. Et puis dans votre livre, vous racontez aussi assez bien comment il débauchait les ingénieurs et la masse salariale, la masse créative, la valeur en fait créative de ces différentes entreprises pour s'offrir ici le spécialiste de ça et là-bas le spécialiste d'un autre secteur pour arriver. Mais il y a au moins cette capacité, on va dire, managériale de percevoir chez les autres là où il y a du talent, de les regrouper et puis de trouver le bon moment malgré tout pour promouvoir justement un outil, en l'occurrence l'ordinateur personnel.
Mmh. Ah oui, tout à fait. Je lui reconnais bien des qualités. Hein. Là, ce à quoi je m'attache, c'est à déconstruire ce qu'on lui attribue à tort. Je ne dis pas que c'est... Je suis loin de moi l'idée de lui expliquer que c'est un parfait charlatan, parfaitement incompétent, que toute sa vie n'était qu'une escroquerie, c'est pas du tout ce que je dis. Effectivement, chez l'entrepreneur, en fait, mais ce qu'on appelle l'entrepreneur, mais ce qui est en fait aussi un patron, la nécessité de rassembler autour de soi des gens compétents pour exploiter leur travail et pour en tirer profit. Il y a aussi une autre compétence dont on a déjà parlé, qui est le storytelling, hein, savoir se raconter et raconter l'histoire de son entreprise pour occuper les médias et générer du bruit promotionnel. Mais une autre chose aussi, en fait, il faut comprendre que au-delà de ses talents, de ses compétences qui ont été construites et qu'il faut aussi expliquer, en fait, il y a tout un ensemble de choses qui sont fortement contingentes et qui sont beaucoup plus déterminantes dans les trajectoires sociales. Donc, si on essaie de faire un peu la socio-histoire de Steve Jobs, il y a plusieurs facteurs qui sont bien plus déterminants que ses capacités, ses compétences personnelles, ou en tout cas qui sont à l'origine de tout ça, c'est tout d'abord le fait qu'il est né à un certain endroit, au bon endroit, au bon moment. Il y a un journaliste qui a écrit un livre qui s'appelle Outliers, qui a expliqué que la fenêtre d'opportunité pour un jeune Californien, et pas simplement un jeune Californien, il faut aller habiter dans certains comtés bien précis pour saisir, être embaumé de cet environnement, c'était entre 53 et 56. Et c'était vraiment la fenêtre où...
Pas assez jeune justement pour être juste diplômé et pas en capacité d'eux, et pas encore assez installé pour être déjà un petit peu dépassé. Donc effectivement, c'est quelques vœux, donc c'est au moins cette chance d'avoir cette fenêtre qui a été perçue de quelques années.
C'est ça, exactement. Et en fait, il y a plein d'autres facteurs qui expliquent aussi la réussite. Steve Jobs, ayant grandi à Détroit, en plein milieu d'une industrie automobile mature et ayant eu tout un environnement autour de lui constitué d'ingénieurs dans l'automobile, de techniciens de l'automobile, aurait-il eu cette destinée? Certainement pas, puisque ce qui est structurant aussi, c'est le niveau de développement de l'industrie dans laquelle vous allez vous insérer. Et là, on était dans une industrie qui allait être parmi... les plus importantes de la fin du XXe siècle, avec une énorme intensité capitalistique, avec une hypercroissance vraiment absolument phénoménale. Et
vous parlez justement de cette école de la pauvreté, et c'est, finalement on comprend bien là que ça fait partie justement du mythe classique, hein, c'est-à-dire n'ayant pas été juste le digne héritier d'un grand entrepreneur ou d'un grand milliardaire, ce n'est pas le petit-fils d'un milliardaire, c'est quelqu'un, mais c'est pas non plus, comme on le comprend bien à vos propos, quelqu'un qui vit dans la périphérie du monde, loin de tout. Et pourtant, il a un petit peu joué là-dessus, sur cette côté d'être dans un milieu social, on va dire, modeste.
Oui, alors effectivement, il y a toute une... Dans le folklore entrepreneurial américain, depuis le 19e siècle, il y a toute une apologie de l'homme parti de rien. Et il y avait tout un ensemble d'idées qui circulaient dans la littérature et dans les hagiographies des grands entrepreneurs américains de la fin du 19e siècle. Cette idée, il mettait beaucoup Carnegie en avant, que les grands entrepreneurs sont partis de l'extrême pauvreté, parce que c'est là où on construit un caractère, on construit une volonté, et c'est là où on se construit en fait à l'épreuve de la vie, et que l'on construit c'est les compétences qui vont permettre de conquérir les marchés.
Mais c'est une forme même de transcendance, c'est-à-dire je transcende mon identité, là où je suis, je vais plus loin.
C'est ça. Et dès les années 1920, des sociologues ont en fait réalisé des études statistiques qui ont montré que, bien au contraire, toutes les grandes fortunes qui se sont développées lors de l'âge doré, le Gilded Age américain fin 19e siècle, c'était massivement des WASP concentrés dans certains comtés du nord-est des États-Unis, issus de la bourgeoisie commerciale et bancaire, ayant, et c'était assez rare à l'époque, fait des études relativement longues, et ayant occupés pour leur premier poste des emplois de clerc, de comptable, qui les ont mis au cœur des réseaux financiers et commerciaux, et au cœur, en fait, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, être bien placé pour voir. Je suis en mesure de saisir des opportunités, pourquoi? Parce qu'en fait, je suis là où les choses se passent, je suis là où les affaires se concluent, je suis là où, pour reprendre l'exemple de la technologie, la tech et la Silicon Valley, là où les ingénieurs discutent, là où les fournisseurs s'entretiennent avec leurs clients, là où en fait on est en capacité d'anticiper sur les innovations à venir.
Alors justement, puisqu'on parle du regard, il y a aussi une manière de l'orienter, ce regard, ce que vous évoquiez tout à l'heure avec ce génie, pour autant dire, du storytelling. Peut-être qu'on peut au moins habiliter ce génie-là à Steve Jobs, donc qui passe par à la fois la relation avec les journalistes et bien sûr la publicité, puisqu'Apple a marqué aussi l'histoire de la publicité dans ses nombreux récits. Il y a une campagne qui est une campagne culte, 1984, un spot réalisé par Ridley Scott, donc un réalisateur de cinéma, qui va mettre en scène pendant une minute l'apparition du Macintosh.
The day we celebrate the first glorious anniversary of the information purification that we have created for the first time in all history. A garden of pure ideology. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail.
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Et vous verrez comment 1984 ne ressemblera pas au 1984 de George Orwell. Dans cette publicité, on voit donc une femme rouge face dans un monde de noir et blanc, libérer les consciences. On comprend aisément que ce monde de noir et blanc, c'est le Big Brother qui représente le PC, qui représente IBM, c'est-à-dire ce qu'il faut arriver quelque part l'entreprise qui emprisonne, qui n'a pas de diversité, qui n'a pas d'esthétique. Et on a Apple qui est le sauveur, le libérateur des consciences. Donc là, on a une publicité avec un storytelling qui est très fort. Donc on comprend effectivement comment ça s'est situé, mais c'est assez étonnant de revoir cette publicité aujourd'hui, lorsqu'on voit que finalement Big Brother a peut-être changé le camp, parce que Apple, dans la manière dont ils ont conçu aussi leurs produits, en informant les consommateurs, les utilisateurs, est une forme de Big Brother également.
Oui, c'est assez fascinant effectivement de voir cette contradiction. En fait, l'une des grandes forces de Steve Jobs en tant que storyteller, ça a été de se choisir des ennemis, des incarnations maléfiques. Il faut bien comprendre, et ça, on retrouve ça à travers toute la mythologie de l'entrepreneur depuis la fin du 19e siècle, que pour sauver son image et incarner un créateur inspiré plutôt qu'un capitaliste, un profiteur, un homme d'affaires, il faut incarner un projet humaniste qui s'exprime par en fait une foi dans le progrès à travers la technologie, et il faut se distancier de figures qui sont des figures capitalistes, d'hommes d'affaires. Et en fait, l'entrepreneur n'est pas un capitaliste, et l'entrepreneur se bat contre les capitalistes. Et alors, dans l'histoire de Steve Jobs, on a tout un ensemble d'ennemis, de l'intérieur et de l'extérieur. Alors, à l'extérieur, on a Bill Gates, bien sûr, et, parenthèse, sa mauvaise image actuelle, avec tout un ensemble de délires complotistes qui se sont développés ces dernières années autour de lui, cette image n'est peut-être pas étrangère, en fait, son image publique, ce qu'elle est devenue, n'est peut-être pas étranger à la communication anti-PC, anti-Microsoft qui s'est développée dès les années 80-90 chez Apple, avec des spots publicitaires qui attaquaient vraiment très frontalement.
Oui, c'était vraiment de la publicité comparative, c'est ça. Comme vous dites, pour pointer du doigt le méchant, pour mieux se faire passer pour le gentil.
C'est ça, exactement. Alors on a lui, on a aussi dans l'épopée d'Apple aussi le grand méchant, le méchant Pepsi, c'est John Sculley qui était un des directeurs généraux d'Apple, qui venait de chez Pepsi, et qui a été celui qui a contribué à évincer Steve Jobs de son entreprise. Et dans les films, comme dans le film de Danny Boyle, voilà, il nous est souvent décrit comme justement, non pas un entrepreneur inspiré, un artiste, comme Steve Jobs, mais comme un homme d'affaires qui a une vision relativement courte et étroite des choses.
Voilà, un financier froid face au génie. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment Steve Jobs, capitaliste par nature, et puis vous l'avez bien expliqué justement dans quel contexte historique et socio-économique il se place, qui va pointer du doigt un autre capitaliste pour pas se faire passer comme tel. Et puis derrière la mythologie de Steve Jobs, il y a aussi toute la culture un peu hippie, ses voyages à l'étranger, la prise de la drogue, etc., qui contribue justement à cultiver un peu la figure de la contre-culture aussi de l'entrepreneur de l'époque.
Et ce qui est intéressant en fait dans ce procédé, c'est voir ce que ça entraîne comme signification. C'est-à-dire que l'entrepreneur et l'homme d'affaires, c'est une seule et même personne en fait dans un imaginaire socialiste où au final, ils possèdent les moyens de production et ils exploitent le travail du prolétariat. Alors que dans l'imaginaire entrepreneurial, ça n'a rien à voir. On a effectivement une différence de nature morale avec des médiocres qui exploitent, qui spéculent, etc., et qui entraînent le marché dans des espèces de marasmes, mais régulièrement, un héros schumpeterien, un héros entrepreneurial arrive pour révolutionner le marché par un acte créateur et démiurgique en imaginant de nouveaux designs, en imaginant de nouveaux produits, en imaginant de nouvelles industries tout entières.
Qui détruit pour créer, effectivement, la destruction créative de Schumpeter.
Exactement, effectivement. Et dans cette conception des choses aussi, dans la science économique, on retrouve cet imaginaire démiurgique, l'homme capable de bouleverser le monde avec, pour point de départ, sa simple action créatrice.
Donc là, on voit effectivement que dans le parcours de Steve Jobs, on a toutes les étapes, c'est-à-dire la naissance dans un garage, donc dans un quotidien, un point de départ qui est censé être difficile, le génie, la vision, quelque part après cette espèce de trahison de l'intérieur, donc une conquête qu'il faut vivre, on a une sorte de menace, il va devoir sortir pour mieux revenir, et après c'est le retour en grâce. On est vraiment dans un storytelling un peu à l'américaine, de l'entrepreneur qui doit gagner sa place et qui y va par le mérite, du moins tel que c'est raconté.
Oui, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'en fait, à Hollywood, il y a une façon d'écrire les scénarios de films épiques, un peu la Star Wars, qui est inspirée en fait de Joseph Campbell, qui est un mythologue, qui a une théorie qui est la théorie du monomythe, qui est complètement battu en brèche par les mythologues, les scientifiques, mais qui dit qu'en fait, toutes les grands récits héroïques, mythologiques, en fait, peuvent être réduits en une seule formule, un monomythe. On a les origines obscures, on a l'initiation, l'appel de l'aventure, la gloire précoce, la trahison, là j'en parlais avec John Scully.
Oui, voilà. L'ancien de Pepsi.
Voilà. La chute, la traversée du désert pendant une dizaine d'années.
Il a d'ailleurs monté une autre start-up
qui n'a pas marché.
Next.
Et ensuite, le retour en gloire, en pleine maturité, en pleine possession de ses moyens. C'est le retour, le second coming, comme disent les Américains. C'est-à-dire le retour en gloire de Steve Jobs. Et enfin, la mort prématurée.
C'est pas de son fait, on est d'accord.
Alors, d'accord, effectivement.
Là, il l'a pas choisi.
Effectivement. Et en fait, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est très facile pour les journalistes américains, récoltant leurs matériaux, compilant les articles qui se sont égrenés au fil des années sur Steve Jobs, de reprendre ce grand patron narratif, ce grand schéma narratif pour y recaser les différents épisodes de vie. En fait, c'est un bon client d'un point de vue narratif, en fait, puisqu'il y a tout un ensemble de passages, d'épisodes de vie, en tout cas tels qu'il les a racontés pour une part, puisque c'est ça aussi, hein, l'enfance de Steve Jobs et tout un ensemble de phénomènes comme des épisodes relatifs à son extrême précocité. La source, c'est Steve Jobs lui-même. Voilà, les commentateurs n'avaient aucun mal à regrouper ces matériaux dans un schéma narratif bien connu.
Et puis vous racontez effectivement l'aventure et le dialogue avec Walter Isaacson, qui est connu justement pour avoir réalisé de nombreuses biographies d'hommes célèbres, hein, vous pouvez en citer justement. Et on voit que Steve Jobs voulait faire partie de ce panthéon et lui avait donc demandé expressément de qu'il lui consacre en fait sa biographie.
Oui, effectivement. En fait, Isaacson, c'est un des plus grands au sens commercial du terme, hein, un des biographes les plus connus aux États-Unis, qui s'était illustré effectivement avec des biographies d'Einstein et de Benjamin Franklin, et qui s'intéressait au génie. Et il a été vraiment approché par Steve Jobs pour lui a demandé d'écrire sa biographie. Au début, il explique très clairement dans son livre, hein, d'ailleurs, c'est intéressant son livre parce qu'il est à la fois extrêmement positif, enjôleur, il cultive le mythe de l'entrepreneur, du génie, du créateur, et en même temps, il explique très bien en quoi cette biographie, c'est un travail de commande. Et en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, il est toujours sur cette lancée, paraît-il, il prépare en ce moment une biographie d'Elon Musk qui va peut-être être annulée finalement, on ne sait rien, mais bon. Et en fait, aujourd'hui, vous pouvez acheter un pack des génies américains.
Une sorte de trilogie.
Enfin, même pas des génies américains, des génies tout court, parce qu'il y a aussi Léonard de Vinci dans le pack, donc avec Einstein, Benjamin Franklin et Steve Jobs. Un pack des génies par Isaacson.
Voilà, un des génies où c'est tout simplement Steve Jobs qui s'est proposé pour être du côté du génie avec cette biographie posthume. Justement, quand on parle de génie, je vous propose un génie musical, non pas avec une biographie posthume, mais avec un album posthume, mais c'est pas une chanson de cet album-là que nous allons écouter, mais il s'agit bien d'Alain Bachung dans Le meilleur des mondes, avec ce titre que vous avez reconnu qui s'appelle Ma petite entreprise. Quoi de plus normal lorsqu'on parle du mythe de l'entrepreneur.
Que n'est pas la crise, épanoui et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme. Que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances, abstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, le tir du néant. Qu'importe l'amour s'exporte, qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos, là j'écoule à mes oreilles, ma petite entreprise, connaît pas la crise, s'expose au firmament. Gère la reprise, embauche de
pose inlassablement sous les voiles et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, ces bâtiments B. À l'oreille de ce lèvre. Je perds le nord, Garbon, quand je vois se poindre les pyramides, nez, mes lubies. Là, j'y coule à mes oreilles, ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie et l'exhibe des trésors satinés, dorés à souhait.
Doré à souhait comme Alain Bashung et sa petite entreprise dans le meilleur des mondes. Tout de suite, c'est l'heure des nouvelles, les nouvelles du meilleur des mondes.
Better, happier, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week.
Les nouvelles du meilleur des mondes, François Saltiel.
Et on commence ce journal en partant à Las Vegas pour rejoindre le gigantesque salon de l'innovation, le CES, ouvert jeudi et qui se tiendra jusqu'au 8 janvier. On aura même pu y accéder depuis le tunnel souterrain construit par l'entrepreneur Elon Musk. Il nous aurait déposé au cœur du pavillon voiture intelligente et autonome qui occupe une place importante de cette édition. Ce grand raout de la performance technologique offre toujours son lot de gadgets dystopiques. J'en ai retenu deux. Pour vous, le premier est une bague connectée destinée exclusivement aux femmes. Cette dernière accrochée au pour analyser l'oxygène dans le sang, la qualité du sommeil, les cycles menstruels et l'ovulation. Et lorsqu'on sait à quel point la liberté des femmes sur l'avortement est menacée dans certains états, ce genre de tracker de l'intimité pourrait être un outil de surveillance redoutable. Le deuxième nous vient d'une start-up toulousaine. Comme chaque année, la French Tech est très présente à Las Vegas avec plus de 200 entreprises. Celle de Toulouse propose un masque futuriste qui étouffe les sons d'une conversation pour ne les rendre audibles qu'à son interlocuteur. Une sorte de gros masque. Et tout cela grâce à des capteurs militaires. Imaginez donc cette flopée de télétravailleurs dans les avions, dans les trains, dans les cafés, affublés d'un masque aussi imposant que ceux des méchants de chez Marvel et qui communiquent donc intérieurement sans que l'on puisse voir leurs lèvres bouger. Oui, on en reste bouche bée.
Open mask.
Et on passe de Vegas à New York où le département de l'éducation de la ville a décidé d'interdire l'accès au site de l'outil ChatGPT sur l'ensemble de ses ordinateurs et son réseau interne. ChatGPT, je vous en avais déjà parlé ici, il s'agit d'un logiciel créé par la société OpenAI qui permet en deux clics de reproduire le langage humain grâce à l'intelligence artificielle. Depuis plusieurs semaines, le grand public semble ébloui par ses capacités d'imitation et les professeurs paniquent devant toutes ces dissertations qui pourraient être en un rien de temps écrites par une machine à la place de l'élève, le texte étant à chaque fois original, il est donc très compliqué de déceler le plagiat, mais heureusement OpenAI réfléchit à une solution de détection comme une signature invisible qui serait apposée sur les textes générés à l'image du pharmacon. L'entreprise propose donc à la fois le remède et le poison.
Hello.
Hi there. How can I help you?
Et nous avons commencé par les innovations dernier cri, on termine par celle d'une époque révolue. La SNCF vient d'annoncer la suppression des 3000 machines qui servent dans les gares à composter les billets papier, des machines jaunes sacrifiées sur l'autel de la dématérialisation, la fin des petits trous donc sur du papier pour des titres de transport au profit du smartphone évidemment. C'est le sens de l'innovation technologique, quitte à laisser les seniors et les déconnectés sur le bas-côté, coupables de ne pas pouvoir prendre le train en marche. Il n'y a pas de doute, vous êtes bien dans le meilleur des mondes.
Welcome to the brave new world.
Et voilà, ces nouvelles du meilleur des mondes et de ces nouvelles de l'actualité où effectivement au CES de Vegas, on imagine bien à quel point le culte de l'entrepreneur est aussi eh bien largement commenté dans une forme de promotion accrue. On se rappelle d'ailleurs que Apple avait marqué aussi l'histoire du CES à Vegas lorsqu'il avait conçu des immenses affiches publicitaires en disant que ce qui se passe sur votre iPhone reste dans votre iPhone et en jouant justement sur la privatisation, la donnée, des protections en fait des données personnelles. On a su effectivement par la suite, dans le cadre de nombreux scandales, que l'iPhone était bien sûr pas si hermétique que ça. Lorsqu'on voit justement dans les différentes actualités de la tech en ce moment, on a de plus en plus de créations de syndicats des employés. On le voit chez Amazon, on l'a vu là très récemment dans l'industrie du jeu vidéo. Dans votre ouvrage, vous parlez justement de cette utilisation des employés, de cette salariée, cette utilisation aussi de ces employés qui sont invisibilisés alors qu'ils fabriquent finalement de la valeur. Est-ce que là, on n'est pas justement dans quelque chose d'un peu positif, dans ce qui pourrait être une sorte de prise de conscience du travail de ces gens de la tech qui font la tech et qui sont bien loin justement dans l'ombre des grands patrons, mais qui commencent tout de même à se faire entendre?
Je serais pas aussi optimiste, mais il paraît que je suis pas très optimiste de manière générale. Mais alors c'est pas vraiment mon champ, mais j'ai souvent entendu des sociologues du travail expliquer que ça remue beaucoup du côté des travailleurs de la logistique, des entrepôts, et qu'il y aurait quelque chose à faire là parce qu'il y a des capitaux qui sont beaucoup plus immobilisés, alors que dans les grandes chaînes sous-traitantes mondialisées, dès que les capitalistes sont un peu contrariés, bah, ils peuvent passer une frontière ou deux ou trois et déménager très rapidement et très efficacement leurs usines à la recherche d'une main-d'œuvre plus pliable et moins coûteuse. Et c'est en fait tout le problème dans lequel sont les syndicalistes, alors qu'ils soient très locaux, régionaux, ou alors au contraire qui ont un travail vraiment qui essaie de dépasser ça avec des mouvements internationaux, de solidarité, etc. On bute toujours sur la même limite, qui est le fait qu'on a des puissances capitalistes qui peuvent assez librement et ce, indépendamment des traités de libre-échange aussi, en négociant un à un avec certains gouvernements. Migrer d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, pour se fixer sur d'autres souches de main-d'œuvre et
moins protégé, plus malin. Mais on voit quand même que c'est assez nouveau, en fait, la création quand même de syndicats dans l'entreprise de la tech. Donc c'est en ça où ça peut être justement quelque chose de positif, même si on sait très bien que le capitalisme est assez malin et trouvera toujours une manière de renaître ailleurs. Dans justement les différentes biographies de Steve Jobs, vous pointez du doigt deux affaires qui sont rarement mentionné, l'affaire des stock options de 2008 et puis celui du cartel des salaires. Ça, c'est justement des affaires qui ont un petit peu entaché la réputation de Steve Jobs et pourtant, ils sont assez vite oubliés ou très peu présents.
Effectivement, quand on fait un travail de comptabilisation, comme je l'ai dit, sur l'ensemble des productions, sur Steve Jobs, des productions biographiques, et qu'on regarde sur ce sur quoi les auteurs, les compilateurs vont s'apesantir et ce sur quoi, au contraire, ils vont passer un peu vite, voire être complètement silencieux. On a l'affaire du cartel des salaires, effectivement. C'est Steve Jobs, à partir de son passage, en fait, du côté de chez Pixar, Lucasfilm, donc une entreprise qu'il avait rachetée, et ensuite, dans son retour chez Apple, en fait, il avait été à l'origine d'une entente, en fait, entre lui et différentes entreprises du secteur, comme Google, pour s'interdire mutuellement de débaucher leurs ingénieurs, pour éviter qu'il y ait un mouvement à la hausse des salaires et qu'ils se nuisent les uns les autres. Et effectivement, ça a été prouvé à travers notamment sa correspondance personnelle, puisque c'est des choses qui ont été révélées et prouvées dans le cadre d'un procès qui n'a pas abouti finalement, puisqu'on a eu un arrangement à l'amiable et l'affaire s'est arrêtée là.
Justement, vous disiez par rapport à ces données ou documents personnels, finalement, c'est quand même assez compliqué, j'imagine, pour vous, dans votre travail, d'obtenir des sources. Parce qu'on voit bien que vous l'avez expliqué, les biographies sont toujours très positives. On n'en a pas parlé, mais il y a un lien très fort aussi de Steve Jobs par rapport aux journalistes. Il a eu une grande entreprise de séduction avec les uns et les autres. Donc, c'est pas simple. Et puis, c'était aussi une période où les données fuitaient beaucoup moins qu'aujourd'hui. On a quantité de lanceurs d'alerte, enfin, quantité, j'exagère, mais on arrive quand même à avoir des documents de Facebook, on arrive à avoir des documents qui viennent de Twitter, etc., aujourd'hui rachetés par Elon Musk. Plus difficile à l'époque et plus difficile aujourd'hui d'arriver à avoir des sources.
C'est un problème général, puisqu'effectivement, les archives d'une entreprise, sa communication interne, voilà, c'est sa propriété. Et alors moi, je travaille dans le champ de l'histoire du marketing, business history, donc histoire des affaires, et c'est un problème qui revient assez régulièrement. Par exemple, imaginez que vous êtes, pour sortir un peu du champ, vous êtes un historien du corps, des pratiques d'hygiène et de beauté en France. Un acteur incontournable qui a structuré les pratiques des Français, en partie, c'est L'Oréal, qui existe depuis très longtemps. Ça peut être compliqué de s'adresser à L'Oréal pour avoir accès aux archives, pour produire ensuite un travail qui sera peut-être un peu trop critique, qui n'ira pas forcément dans une direction qui... Le produit historique de nos recherches n'ira pas forcément dans la direction d'une communication corporate. Et alors, c'est un vrai problème pour la plupart des chercheurs qui travaillent sur l'histoire des affaires, l'histoire du marketing. Effectivement, pour faire une histoire de Steve Jobs véritablement d'un point de vue scientifique et une histoire d'Apple, il faudrait avoir accès aux archives, aux bilans, aux mémos, à toute une correspondance à laquelle, effectivement, on n'a pas accès.
Mais vous qui avez donc épluché toutes ces sources, est-ce qu'il existe aujourd'hui un livre, un film, un documentaire qui, à votre sens, retracerait de manière un peu plus juste ou sans tomber justement dans le mythe et dans le culte du mythe de l'entrepreneur, l'histoire de Steve Jobs et d'Apple, ou il n'existe pas encore cet objet?
En fait, vous avez des bouquins très intéressants que je cite dans mon livre d'histoire de la Silicon Valley. Il y en a énormément, enfin il n'y en a pas énormément, il y en a quelques-uns vraiment très bons. C'est de l'histoire scientifique, hein. C'est un peu ardu à lire et c'est pas traduit. Il y a aussi l'histoire de l'informatique américaine. Et c'est par là, c'est par ce truchement-là que vous pouvez faire de manière détournée une histoire un peu plus objective et réaliste d'Apple.
Alors justement, quand vous parlez de l'histoire de l'informatique américaine, il y a un acteur qui arrive constamment et assez vite, c'est l'État. Et ça, c'est quand même assez intéressant, puisqu'on peut le voir justement dans la philosophie de Steve Jobs, comme dans celle d'Elon Musk, comme dans celle de Jeff Bezos, comme dans celle de tous ces grands architectes de la Silicon Valley. Ils ont tous à peu près une approche assez libertarienne, c'est-à-dire il faut s'affranchir de cet État qui est castrateur, qui empêche la créativité. Et pour autant, on comprend que dans leurs industries, sans l'État, ils ne seraient quasiment rien. Et là, ça fait partie aussi des facteurs exogènes qui ont permis la réussite. On va tout de suite écouter l'économiste Marina Mazzucato qui en parle assez bien de la manière dont l'État a été prépondérant dans la réussite d'Apple.
Demandez-vous qui a financé les fonctions vraiment cool et révolutionnaires de l'iPhone. Qu'est-ce qui fait de votre téléphone un téléphone intelligent au lieu d'un téléphone stupide? Internet qui vous permet de surfer sur le web partout dans le monde et de savoir où vous êtes, et l'écran tactile qui transforme le téléphone en quelque chose de très facile à utiliser pour tout le monde. Ces fonctions très intelligentes et révolutionnaires sur l'iPhone ont toutes été financées par le gouvernement. Le fait est qu'Internet a été financé par la DARPA, le département américain de la défense, le GPS a été financé par le programme Navstar de l'armée, et même Siri a été financé par la DARPA. Quant à l'écran tactile, il a été financé par deux subventions publiques de la CIA et de la NSF à deux chercheurs universitaires publics de l'Université du Delaware.
Là, c'est quand même intéressant ce paradoxe. C'est-à-dire que ces entrepreneurs veulent remplacer l'État, estiment que c'est un frein, alors qu'on se rend bien compte que finalement c'est un propulseur, c'est un accélérateur.
Oui, effectivement. Quand on analyse les choses comme je l'ai fait de manière un peu narratologique, en essayant de comprendre les structures de l'histoire, on a une scène qui est le marché, et souvent au centre en fait de la pièce, on a un acteur central qui est l'entrepreneur, Steve Jobs. Et autour, on a quelques personnages secondaires, Steve Wozniak par exemple, qui vont et viennent, et qui sont surtout dans un rapport instrumental en fait, voilà, qui sont pas moteurs de l'intrigue. Et il y a un personnage qui n'intervient jamais, quel que soit l'entrepreneur sur lequel vous vous penchez en fait, à toute époque en fait, un personnage qui n'est jamais incarné dans ces récits, c'est l'État. Alors qu'on peut l'incarner sous la forme d'un investisseur public en fait, hein, d'un État, d'un homme d'État qui va investir dans de la recherche fondamentale qui est absolument nécessaire ensuite au fait que vont éclore des industries et des entrepreneurs. On peut aussi s'imaginer sur scène, à côté de l'entrepreneur, un militaire, puisque, et dans le cas de la Silicon Valley, comme ça vient en partie d'être expliqué, effectivement, c'est l'État entrepreneur, c'est un État militariste, dominateur américain, qui est dans une course à l'armement face à la Russie, à l'URSS, et qui va énormément investir, en fait, dans tout un ensemble de recherches fondamentales qui vont porter leurs fruits. Et l'État américain, effectivement, a été le client de la Silicon Valley lors des 50 premières années de son existence, des radars jusqu'aux microprocesseurs.
Et on peut le voir justement, cette volonté de donc voir à quel point en fait ces entreprises ont besoin de l'État, mais après l'oublient, l'invisibilisent et donc souhaitent le remplacer, avec même le rapport philanthropique qu'on a chez Bill Gates, évidemment à haute dose on va dire, mais également chez Steve Jobs, c'est-à-dire cette idée de dire mes richesses, vos richesses, votre exploitation va permettre encore une fois de sauver le monde puisque je vais arriver à essayer de combattre la pauvreté, la famine, voire même construire des écoles.
Oui, tout à fait. En fait, il faut bien comprendre que, Alors, à mon sens, hein, c'est l'interprétation, la conclusion que je donne dans mon ouvrage, le mythe de l'entrepreneur, c'est un sous-ensemble, une sous-catégorie de l'imaginaire capitaliste contemporain, où, en fait, si on regarde les axiomes, en fait, les fondamentaux idéologiques qui sous-tendent un peu ces histoires, on a au centre un espace démocratique qui est le marché. Le marché en tant qu'entité vraiment qui est complètement pleine en fait, qui épouse l'existence, et une entité qui va être un opérateur de justice, c'est-à-dire que les individus tous sur un pied d'égalité vont s'affronter sur le marché, et le plus valeureux, le plus talentueux, le plus méritant va en ressortir vainqueur, la lutte concurrentielle. On est sur une espèce de compte moral, et en fait Cette mystique est une anti-sociologie, c'est une littérature, et ce sont des idées qui sont anti-déterministes, c'est-à-dire qu'ils vont considérer que la force des individus sur le marché, la force des individus dans leur existence, leur puissance, en fait, dans une espèce de tautologie, ça vient de leur volonté propre, en fait. On a une espèce de mystique innéiste, comme ça, les individus s'expliquent par eux-mêmes. Ils ne sont pas le produit d'un contexte. Et c'est, en fait, absolument nécessaire de répéter cette espèce de catéchisme. Pourquoi ? Parce que si les individus sont des produits, nous sommes tous des produits, nous sommes le produit d'une existence, d'un contexte, d'une phase historique, d'une industrie, etc., tout un ensemble de choses, alors il est très difficile de se prévaloir du mérite pour accaparer des richesses. Et il devient très difficile de s'opposer à la gestion démocratique des affaires, avec l'émergence d'un syndicat, par exemple. Alors que si on est un être supérieur, on peut très bien dire qu'on est seul habilité, on est seul visionnaire, être supérieur, capable de comprendre les choses, puisqu'on l'a prouvé.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que d'un Peter Thiel jusqu'à un Jeff Bezos, tous disent finalement qu'ils sont contre les syndicats, contre cette idée que vous évoquez très bien, c'est-à-dire que finalement, il faut aussi être en mesure de pouvoir décider pour les autres, et on arrive à pouvoir décider pour les autres parce qu'on se reconnaît comme un génie et on ne le voit pas chez les autres. Et là, ça, on voit qu'il y a toute la dimension justement politique que vous évoquez dans votre ouvrage, de ce mythe de l'entrepreneur.
Oui, complètement. Et alors, on a parlé un peu de temps en temps d'Elon Musk, ça est là dans la conversation. Là où c'est intéressant, il y a peut-être un parallèle à faire avec Donald Trump, puisque dans le New York Times, il y a quelques années, avait appelé Elon Musk le Donald de la Silicon Valley, quelque chose comme ça, je me rappelle plus du titre de l'article exact.
Mais déjà, Elon Musk était un rare soutien de Donald Trump à l'époque, hein, parmi effectivement les grands entrepreneurs de la vallée.
Et en fait, on peut reprocher les deux personnages dans leur caractère assez parodique, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, Elon Musk est relativement banal en ce qu'il, en fait, reprend les schémas, la structure du mythe de l'entrepreneur. Il reprend tout un ensemble de thèmes qu'on a déjà évoqués par rapport à Steve Jobs. Et il les reprend et son récit s'inscrit dans ce patron-là, dans ce schéma-là, mais dans une version, en fait, vraiment étirée à l'extrême. La plupart des entrepreneurs sont connus et célébrés pour avoir été les créateurs d'une entreprise et les dirigeants d'une entreprise. Lui, il en dirige 5 simultanément.
Voilà, c'est là où on est dans une sorte d'entrepreneur augmenté qui va donc dissiper sa vision messianique dans tous les secteurs, la santé, la recherche, la voiture, le transport et bien sûr l'espace. Lui, il vient d'atterrir dans notre studio, c'est Marcus Dumont-Bénard. Bonsoir Marcus.
Bonsoir François et bonne année bien évidemment.
Eh bien bonne année ainsi qu'à tous les lecteurs de Numérama dont vous êtes un digne journaliste. Et puis comme on vient de le voir, Anthony Galuzon a évoqué Elon Musk et parodie, ça tombe bien puisque vous allez nous parler d'un film qui est été diffusé sur Netflix et qu'il est toujours évidemment, qui est une sorte de satire de l'entrepreneur et d'un certain Elon Musk.
Tous les génies passent pour des fous capricieux. Cette phrase nous vient d'un personnage du film Glass Onion. Vous l'avez dit en début d'émission, c'était le gros hit de Netflix pendant les fêtes. Alors le pitch, un milliardaire convie ses amis sur son île isolée pour résoudre son propre meurtre. Sauf que ce jeu de rôle va tourner au vinaigre. Il y a un casting 5 étoiles avec Daniel Craig dans le rôle de l'enquêteur. Mais quel est le rapport avec l'émission ? Demanderez-vous, eh bien le lien est plus direct que vous ne l'imaginez. Mais avant, on se met dans l'ambiance.
Mesdames et messieurs, il y a eu un meurtre. L'assassin est à la vue de tous. Mais pour une personne sur cette île, ce n'est pas un jeu. Je me dois d'insister, personne ne doit toucher le corps.
Monsieur Blanc, qui est coupable d'avoir cassé l'ambiance ?
Le fameux milliardaire au centre de Glass Onion est un certain Miles Brown. Cet entrepreneur fictif a fait succès dans la tech et il est un peu instable. Dès que le film est sorti, tout le monde a pensé à la même chose. Tiens, tiens, ce Miles Brown ressemble étrangement à un certain Elon Musk. Sauf que là où Elon Musk a longtemps eu l'image de l'entrepreneur de génie admiré, adulé, il y a un changement de ton. Dans Glass Onion, c'est le ridicule et la duplicité, voire même la cupidité, qui sont mises en avant. L'enquêteur, joué par Daniel Craig, en arrive même à une conclusion qu'il annonce de façon spectaculaire. Miles Brown est en fait un idiot. Et oui, ça casse le mythe.
Et alors, comment ce personnage fait-il référence au mythe de l'entrepreneur dont nous parlons depuis le début de cette émission?
Eh bien, par exemple, Miles Brown se présente lui-même comme un perturbateur, comme Elon Musk qui prétend aller à contre-courant. Miles Brown aime aussi se donner en spectacle, ne rien prendre au sérieux. Il dépense des millions pour des caprices, il loue la Joconde juste pour le plaisir et le plaisir de la mettre en danger. Elon Musk, rappelons-le, a racheté Twitter en débarquant au QG avec un lavabo dans les mains. Il a fait du réseau son jouet et il prend des décisions à coups de sondage. Il y a encore bien d'autres éléments de comparaison, mais en fait c'est plus profond. Glass Onion est une satire qui montre un Miles Brown menteur, qui usurpe, qui ment, qui pille ses idées à d'autres.
Et à votre avis, à quoi sert une fiction comme celle-ci pour parler de la réalité?
Eh bien, Miles Brown fait référence à des cas d'entrepreneurs déchus. Et oui, ça se passe mal pour Miles Brown dans Glass Onion. Eh bien, par exemple, Elizabeth Holmes a été condamnée pour fraude après avoir été présentée dans les médias comme la créatrice d'un empire médical de génie. Sam Bankman-Fried est maintenant en procès pour avoir convaincu des investisseurs de miser sur sa plateforme crypto, finalement assez douteuse. Mais c'est pas tout, sans compter eh bien, que la start-up Neuralink d'Elon Musk est faussement présentée comme révolutionnaire novatrice alors qu'elle repose sur des travaux universitaires existants, bien moins médiatisés, et que des sources évoquent dorénavant un côté un petit peu sombre des manquements éthiques de maltraitance animale. En fait, une fiction satirique comme Glass Onion nous met face à la réalité plus que jamais. Ça montre que le mythe de l'entrepreneur est certes ridicule, mais qu'il n'en demeure pas moins dangereux. Car quand le ridicule est au pouvoir, le monde n'est plus que faux-semblant.
Merci beaucoup Marcus pour cette chronique. Peut-être une réaction, Anthony Galluzzo?
Oui, alors, ce à quoi ça me fait penser, effectivement, c'est une des conclusions du livre, c'est le fait que même si vous avez une figure entrepreneuriale comme ça qui passe par la gloire et ensuite est déchue et elle est démasquée comme un personnage charlatanesque, etc. On a parlé d'Elizabeth Holmes, effectivement, qui était vers 2013-2014 en pleine montée en puissance dans les médias américains et qui avait tout du récit qui mobilisait tous les éléments du mythe d'entrepreneur. Voilà,
qui voulait vendre effectivement la preuve de Theranos, cette entreprise qui était capable avec une simple petite goutte de sang de savoir votre état de santé, de prédire et puis même de détecter des futures maladies pour essayer de vous sauver.
Voilà, et c'est quelqu'un qui avait aussi un uniforme à la Steve Jobs, qui parlait de manière particulièrement éloquente, qui expliquait qu'elle était tellement précoce qu'elle avait appris le mandarin à 15 ans, etc. Il y avait tous les éléments et effectivement elle a connu une déchéance. Et maintenant, elle est complètement évacuée. C'est juste un sujet à thriller. On peut s'imaginer un sort similaire pour l'entrepreneur du jour, Elon Musk, éventuellement. Peut-être pas, mais éventuellement. Mais peu importe, puisqu'au final, les grands médias vont certainement continuer à sécréter d'autres célébrités entrepreneuriales, puisque la source de tout ça, en fait, c'est pas une source accidentelle, c'est quelque chose vraiment de systémique, en fait. C'est la façon dont se raconte l'économie.
Je rebondis sur votre lapsus, vous avez dit occidental. Est-ce que justement ce mythe de l'entrepreneur, c'est uniquement réservé à l'Occident?
Alors, on a quelques variations. Par exemple, Jack Ma en Chine reprenait certains éléments et était une espèce de figure un peu hybride comme ça. On a un peu moins de ces figures aussi en France. On a ce qui s'en rapproche le plus, ça a été Bernard Tapie, Xavier Niel. Voilà, alors effectivement, en fait, étant donné qu'il y a quand même une domination du soft power américain qui est quand même très forte sur l'ensemble de l'Occident et aussi en partie sur le monde, les grands entrepreneurs, les célébrités entrepreneuriales qu'on admire, en fait, sont quand même assez souvent des célébrités américaines.
Des célébrités américaines. Et c'est aussi intéressant de voir que ce film critique, qui va déconstruire justement le personnage d'Elon Musk, et je crois d'ailleurs qu'un film sous repère avec Elizabeth Holmes, qui pourrait aussi être diffusé sur Netflix, est toujours l'œuvre d'une plateforme même américaine. Comme quoi, finalement, c'est comme dans le capitalisme, hein, tout se récupère et même la critique est absorbée pour en faire un produit. Merci beaucoup, Anthony Galluzzo, d'avoir été avec nous ce soir dans Le Meilleur des Mondes. Je rappelle donc de votre ouvrage, Le mythe de l'entrepreneur, défaire l'imaginaire de la Silicon Valley. Ça sort la semaine prochaine, jeudi exactement. Donc, merci d'avoir été avec nous en avant-première. Je remercie à la préparation de l'émission Juliette Deveau, accompagnée d'Héloïse Robert comme stagiaire, à la réalisation Daphné Leblond et à la technique ce soir Étienne Rouche. Je vous rappelle aussi que la semaine prochaine, Le Meilleur des Mondes continue et pour la première fois sera donc diffusé en simultané sur Twitch. Donc n'hésitez pas tout de suite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour vivre cette première avec nous. Merci beaucoup. Le Meilleur des Mondes, c'est terminé.